partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Canal Académie poursuit son voyage au Brésil. Après une première halte à Rio de Janeiro, où nous avons rendu visite à la délégation générale de l'Alliance française au Brésil, nous pénétrons à l'intérieur du pays, à Belo Horizonte. C'est la capitale de la province Minas Gerais, le pays des mines d'or et de fer. C'est une ville située au sud-est du pays. Et puisque les relations privilégiées lient Canal Académie à l'Alliance française, aux Alliances françaises, nous avons voulu rencontrer le directeur de l'Alliance française à Belo Horizonte, Patrick Lecoustumer. Patrick Lecoustumer, bonjour.
Bonjour.
Je vous propose, dans une première partie de notre entretien, de nous parler de la ville et de la région où vous exercez actuellement vos activités. Ensuite, la deuxième partie sera consacrée plus particulièrement, bien sûr, à votre institut, à l'Alliance française de Belo Horizonte. Belo Horizonte, c'est un nom aux résonances pleines de promesses. C'était la capitale des chercheurs d'or au siècle passé, n'est-ce pas? Vous voulez peut-être nous faire une petite visite radiophonique et de la ville, de son importance par rapport au reste du pays où on peut parler vraiment d'un continent, et aussi de la région peut-être.
Alors avec plaisir, Belo Horizonte ou Belo Horizonte, comme on dit ici, est la capitale donc de l'État du Minas Gerais, qui est un État extrêmement important dans sa superficie, puisqu'il faut le comparer à la France, c'est une superficie supérieure à celle de la France, donc c'est dire son étendue. En même temps, c'est un État qui est extrêmement dynamique aujourd'hui dans son économie, puisqu'on va y trouver une économie pionnière dans le domaine des mines, comme vous l'avez cité, mais également dans le domaine du textile, dans le domaine des produits laitiers. Et puis d'un point de vue touristique, elle est sans cesse en expansion, avec notamment d'énormes projets concernant des découvertes écologiques, puisqu'on a ici des paysages extrêmement variés. Quant à Belo Horizonte, c'est une ville en totale expansion. C'est une ville qui a un petit peu plus de 100 ans, puisque initialement, la ville pionnière du Minas était Ouro Preto, la ville coloniale, classée par l'UNESCO dans les années 90, si je me souviens bien. Et donc, comme le site d'Ouro Preto était limité dans son expansion, les urbanistes ont pensé à cette région de Belo Horizonte. Et donc, on a vu une ville qui s'est implantée sur des schémas urbanistiques empruntés à des villes européennes comme Paris ou Barcelone, bien du continent nord-américain comme Washington. Donc, des villes qui sont quadrillées et aujourd'hui qui font preuve d'un urbanisme qui se dirige de plus en plus vers le ciel.
Vers le ciel, vous voulez parler des gratte-ciels?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est extrêmement surpris à sa première arrivée parce qu'on a un schéma de ville qui ressemble plus maintenant à une cité américaine au schéma initial de ces cités européennes.
Oui, tout à fait. Il y a combien d'habitants aujourd'hui à Belo Horizonte?
Alors je pense que si on s'adresse aux habitants eux-mêmes, on a des difficultés à obtenir un chiffre identique selon les personnes. On sait qu'on est à plus de 2 millions d'habitants, largement au-delà. On doit être vraisemblablement proche des 3 millions d'habitants. On dit que c'est la troisième ville du Brésil.
Rio de Janeiro, São Paulo, qui est peut-être la première en importance de population. Belo Horizonte serait la troisième ville. Et quelle est en gros la composition de la population? Est-ce qu'elle est à peu près la même que dans tout le Brésil ou est-ce qu'elle est un peu différente?
Je crois que comme dans toutes ces cités qui sont en expansion, on va trouver justement toutes les couches de population. Et comme c'est une ville qui est très attractive d'un point de vue professionnel, elle attire des personnes de tout l'État et de toutes les régions. C'est une ville qui est extrêmement bien structurée d'un point de vue de la formation, avec des universités brillantes qui ont des partenariats avec d'autres universités à travers le monde. Et on a là un dynamisme extrêmement fort, justement, dans la formation de l'intelligence. On a des centres de recherche, des centres industriels. On a une économie qui est très en relation avec les pôles industriels européens. Je pense que, par exemple, les usines Fiat sont implantées ici, à Belo Horizonte, et dans l'état du Minas, en direction de Rio de Janeiro, nous avons les usines Mercedes.
Oui, c'est vraiment un pôle industriel et économique très très important dans le Brésil en général. Vous parliez de ce dynamisme, par exemple, des universités. On sent ce dynamisme d'ailleurs partout, à Rio de Janeiro. J'ai eu le grand plaisir d'interviewer aussi M. Yann Lorvaux, qui est le délégué général de l'Alliance française au Brésil, situé à Rio, qui me parlait aussi de ce fabuleux dynamisme et de cette curiosité, de cet éveil de ce continent que vraiment est le Brésil. Une particularité, outre le pôle économique et industriel, au point de vue artistique, y aurait-il une particularité aussi dans cette région ?
Alors, on constate que beaucoup de créateurs qui auparavant auraient développé leur activité dans des villes comme Rio ou São Paulo viennent s'implanter sur Belo Horizonte. Alors, pour quelles raisons ? Le mieux serait de leur demander, mais sûrement qu'il y a une qualité de vie qu'on trouve ici et qui échappe peut-être à l'agitation des deux villes précédemment citées. Mais parce qu'ici, il y a vraiment un foyer intellectuel et un foyer de créateurs importants. On pense dans la danse, justement, à des groupes comme Grupo Corpo, qui tournent partout dans le monde et partout en Europe. On les a vus au Festival de danse de Villeurbanne, à Lyon. On a des groupes de théâtre extrêmement importants ici. Je pense au Grupo Galpão, qui fait un travail de rue, qui est reconnu aussi sur le continent sud-américain. Et puis dans le domaine des arts visuels, énormément d'artistes, que ce soit dans les arts plastiques, dans la photographie. Je pense qu'on va voir émerger aussi dans les prochaines années des figures importantes dans le domaine de la création cinématographique parce que les universités développent un enseignement, des structures, des initiatives privées également se développent et on sent qu'il y a une émulation grandissante. Donc vraiment, c'est un foyer, une espèce de bouillonnement, mais qui je crois est à l'image de ce pays qui n'est plus un pays mais qui est un continent. Donc c'est pour ça qu'il faut à chaque fois bien avoir l'échelle des valeurs et ne pas parler du Brésil en le comparant à un de nos pays européens. Il faudrait presque le comparer à la dynamique de l'Europe.
Oui, tout à fait. D'où viendrait cette impulsion, cette passion et cet enthousiasme qu'on ressent un peu partout dans la rue? Et vous, vous parlez à un niveau beaucoup plus évolué dans les universités, dans les échanges culturels et artistiques. Mais on est étonné et je voudrais savoir si vous avez peut-être une réponse à la question d'où vient ce bouillonnement brésilien qui est très très particulier?
Sans doute qu'il y a des raisons historiques. C'est-à-dire qu'on a eu un pays qui a été colonisé, où il y a eu un système de fonctionnement, une politique très verticale, très autoritaire, qui ont abouti à des régimes autoritaires. Et on a vu qu'une certaine élite, d'ailleurs, a fui le pays. Peut-être que tout à l'heure, on abordera le cas de Oscar Niemeyer, par exemple. Et en même temps, il y a une attractivité très, très forte sur l'autre, qui peut être l'Europe, qui peut être les États-Unis. Il y a quand même ici une dimension. Moi, c'est le premier séjour que je fais sur le continent sud-américain. Et dans mes séjours antérieurs sur d'autres continents, je n'avais pas ressenti à quel point la France et Paris pouvaient avoir une attractivité aussi grande qu'ici au Brésil. C'est totalement irrationnel. C'est-à-dire que c'est une passion amoureuse. Ça ne s'explique pas. Et quand je demande aux gens, parce que moi-même ici j'anime un cours de civilisation, qui est une approche en réalité de la création artistique contemporaine, à chaque fois les références vont sur la France et sur Paris, mais je vous dis d'une manière irrationnelle. Et quand je leur demande d'expliquer cet attrait, et pourquoi il n'y aurait pas le même attrait par exemple sur Lisbonne et le Portugal, puisque ce sont leurs origines, eh bien non, c'est toujours Paris. Et j'entends des personnes ici qui sur 12 mois de l'année vont économiser pour pouvoir aller passer 3 mois en France. Je n'ai pas vu ça dans d'autres pays.
C'est tout à fait étonnant, en effet. Et ça nous amène tout droit à l'année de la France au Brésil, qui était donc fêtée très largement, je crois, en 2009.
Oui, alors nous sommes inscrits effectivement dans ce dispositif, avec, je crois, une tentative de donner à voir justement ce qu'il pouvait y avoir aujourd'hui de plus innovant dans les différentes disciplines artistiques de la France, tout en n'oubliant pas justement la dimension artistique de ce propre pays, puisque nous, nous sommes dans un système d'altérité, de dualité, puisqu'une alliance française, c'est une alliance, c'est comme dans un mariage, voilà, c'est un couple qui se constitue, c'est d'évoluer à parité.
Oui, tout à fait, mais vous pouvez peut-être nous parler un peu plus en détail de vos différentes manifestations au cours de cette année de la France au Brésil.
Alors effectivement, je vais peut-être vous donner quelques exemples. Nous avons agi sur différents modes d'intervention, qui sont par exemple les rencontres débats, où tout au long de cette année, on a donné la parole à un certain nombre d'écrivains, qui, dans le cadre d'invitations qu'ils avaient ici au Brésil, sont intervenus dans notre alliance. C'était notamment des universitaires comme Daniel Ristero-Cheroniki qui sont intervenus sur la notion de traduction et comme quoi la traduction était un acte de création en tant que tel. Nous avons eu un jeune écrivain comme Timothée de Fombelle qui est édité chez Gallimard et qui écrit pour le théâtre et également pour la jeunesse. Nous avons eu Jean-Paul Delfino qui est bien connu puisqu'il a écrit une saga sur le Brésil contemporain et notamment sur cette période trouble de la dictature. Dans le domaine des arts urbains, des cultures urbaines, nous avons eu tout un cycle sur le slam en proposant des ateliers aux étudiants et à tout le public où les personnes ici étaient sensibilisées à ce nouveau genre qui est très peu connu et très peu pratiqué encore au Brésil, avec des concerts, avec un concours qui a permis justement à 6 jeunes du Brésil ensuite de bénéficier d'un stage à Paris au mois de juillet pour rencontrer des slameurs de la capitale. En danse contemporaine, on a essayé de tisser le lien avec les origines et notamment avec le continent africain et avec les studios Kabako de Kinshasa, avec une très belle manifestation, atelier suivi de 2 spectacles avec le chorégraphe danseur Papier Botani, qui a associé dans une de ses créations les 10 stagiaires qui avaient à travailler avec lui pendant 3 journées. Nous avons également accueilli une chorale parisienne, les Petits Chanteurs de Saint-Louis, qui ont pu s'inscrire dans le festival d'hiver de musique d'Ouro Preto et de Mariana, avec un répertoire qui a absolument suscité l'enthousiasme du public au mois de juillet dernier. Dans le domaine de la photographie, nous avons eu une manifestation avec le soutien de Culture France qui, pendant 2 mois, était accueillie par le Palacio das Artes, ici, à Belo Horizonte, et qui a accueilli, durant ces 2 mois, plus de 5000 spectateurs, 5000 participants. Ça a été un événement qui, vraiment, je crois, a marqué les populations, mais dû à la qualité à la fois de l'exposition et de son caractère en même temps pédagogique et de toutes les ouvertures qu'elle permettait pour porter un regard, justement, sur à la fois l'évolution d'une technique, son historicité, et en même temps, comment ce médium était intégré par les artistes contemporains. Pas citer tous les exemples, on a eu des initiatives également ici en développant des partenariats, puisque dans cette alliance, nous travaillons hors les murs pour le domaine culturel et nous nous sommes liés avec une nouvelle structure de la ville qui s'appelle le 104, qui a son similaire à Paris, qui est une initiative privée, qui est une école de cinéma en devenir pour public défavorisé et qui s'est investie dans un superbe lieu industriel en plein centre-ville. Et avec eux, nous avons inauguré 3 événements, à savoir donc l'accueil de cette compagnie du Congo Kinshasa en danse, une exposition d'une artiste plasticienne française et puis une promotion du film de Yann Arthus Bertrand, Home, avec une exposition de ses photographies.
Et donc à toutes ces manifestations, le public de Belo Horizonte a répondu présent, en grand nombre.
Alors le public de Belo Horizonte, il est tellement sollicité que la question se pose de comment aujourd'hui aller chercher ce public. Et je crois que c'est une question qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout dans le monde, c'est qu'il ne suffit pas de mettre à l'affiche des manifestations, il y a un public à former. Voilà. Donc ça veut dire que dans une alliance française, surtout quand on est accueilli dans un pays autre, nous devons être à la fois très humbles et très ambitieux. Et savoir que nous semons pour inscrire des projets dans la durée et qu'un public, ça se forme et que pour cela, eh bien, nous avons besoin de l'autre, des partenaires, pour développer une pédagogie qui peu à peu permettra que la curiosité, justement, dépasse peut-être les habitudes éducatives, les habitudes culturelles, les goûts, les intuitions, et que justement on puisse donner ce désir d'aller vers ce qu'on connaît le moins, d'aller vers l'inconnu. Enfin, c'est ainsi que moi je conçois ma mission ici, pour qu'on puisse dépasser le champ du public habituel de nos structures.
Donc un défricheur, un découvreur et un missionnaire en quelque sorte.
Complètement. Moi, j'ai une image emblématique de notre travail, puisque je viens, moi, d'une formation artistique. C'est la démarche d'un artiste allemand, Joseph Beuys, qu'on rattache au courant Fluxus, et qui avait réalisé une performance qui, moi, est présente continuellement dans le choix de mes engagements et de mes actes. Cette performance qui s'appelait « I like America, America likes me ». En bref, c'est une tentative d'apprivoisement entre l'homme et l'animal. Comment il se fait enfermer dans une galerie new-yorkaise avec un coyote, qui est l'animal emblématique de la culture d'origine indienne du continent américain. Comment un homme cultivé se laisse enfermer avec un animal sauvage et qu'entre les deux, il n'y a aucun acte délibéré d'attirer l'autre, de le charmer ou de le diriger. Et cette performance s'achève quand, au bout de quelques jours, l'animal, après avoir essayé toute tentative pour s'accaparer les affaires de l'artiste, viendra se blottir contre lui. Et là, Beuys met un terme à l'expérience en disant « Maintenant, ça suffit, moi je retourne dans mon pays d'origine, l'animal revient à son territoire d'origine. » Et je crois que c'est un schéma sur lequel nous devrions méditer chaque fois que nous avons à travailler avec des partenaires.
Vraiment, ça éclaire d'une manière fantastique l'esprit de l'Alliance française que j'ai rencontré lors d'autres entretiens. Cette expérience de Beuys que vous venez de décrire, ça fait très bien comprendre l'engagement entier qui vous caractérise, les représentants de l'Alliance française.
C'est vrai qu'on aurait toujours tendance, par déformation professionnelle et par rapprochement avec ces notions de rentabilité, à être interventionniste. Bien sûr que nous devons avoir une culture de la performance. En même temps, je crois qu'il faut donner le temps au temps. Et je crois que ce qu'il y a de plus fort et qui n'est pas mesurable, c'est notre capacité à poétiser le monde, à poétiser les espaces dans lesquels nous travaillons, à poétiser les gens avec lesquels nous travaillons. Et donc, c'est un perpétuel rapport amoureux. Et c'est cette dimension-là dans laquelle nous devons être chaque fois que nous sommes dans le doute et que nous sommes dans des bilans ou que nous devons chiffrer, alors que nous sommes parfois dans des relations beaucoup plus subtiles.
Nous avons déjà fait donc un petit détour ou une petite incursion dans votre institut, dans votre alliance à Belo Horizonte. Pour revenir à la ville proprement dite, vous avez évoqué tout à l'heure le très célèbre architecte Oscar Niemeyer, qui est très très présent dans cette ville. Plusieurs bâtiments publics portent sa signature, sa marque. Par exemple, je crois le Grand Théâtre et puis un énorme parc avec un très beau lac, enfin toute une conception paysagiste dans lequel aussi, je pense, se trouve un bâtiment. Peut-être vous pouvez nous en parler, parce que Niemeyer, il faut le rappeler, est un monsieur qui est aujourd'hui 101 ans, n'est-ce pas ?
102 dans quelques jours, le 15 décembre.
Il va bientôt fêter son anniversaire, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 9 décembre 2009. Ça, oui. Donc cet architecte a laissé beaucoup de traces dans cette ville. Ça, c'est plus connu, c'est l'architecte de Brasilia, de cette fameuse ville moderne qui est maintenant la capitale du Brésil et qui a été inspirée par le président
Kubitschek.
Mais vous pouvez m'en parler peut-être ou nous en parler.
Le président Kubitschek était gouverneur, avant d'être président, était gouverneur de l'État du Minas Gerais. Et dans les années 40, il a fait appel au jeune architecte Niemeyer pour notamment développer une extension de la ville autour d'un quartier qui s'appelle Pampulha, où là, Niemeyer a construit une église, un casino, donc un ensemble autour d'un plan d'eau, qui, on va dire, aura peut-être été le laboratoire, justement, de Brasilia. Et quand Kubitschek, donc, a eu ce désir de développer Brasilia, il a fait appel à nouveau, donc, à Niemeyer. Et on sait qu'à ce moment-là, la plupart des édifices publics de Brasilia sont dus à la signature de cet éternel jeune architecte, puisqu'il est toujours à concevoir des projets. Et je voyais qu'il travaille en ce moment sur un centre culturel dans les Asturies, en Espagne, qui devrait s'inaugurer en 2012. C'est quelqu'un qui s'est remarié pour la seconde fois il y a quelques années et qui s'inscrit dans une dynamique de jeunesse qui est une leçon pour nous tous.
Oui, absolument. C'est remarquable, étonnant. Et je crois savoir qu'il vient de signer un projet immense, un fabuleux projet d'un centre administratif du gouvernement de la région ou de la province de Minas Gerais, avec un bâtiment suspendu. Vous pouvez peut-être nous le présenter ?
Écoutez, là, vous me donnez une information. Les derniers projets qu'il avait eu ici, c'était sur le théâtre public de Niterói, après avoir créé le musée d'art contemporain. Il y a eu ce théâtre public qui a été inauguré en 2007, je crois. Et sur ce projet, alors je pense que c'est quelque chose de tout à fait récent, mais sur lequel je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Mais ça montre bien l'esprit de cet État, qui est surprenant. C'est-à-dire que chaque jour, On est dans la découverte, justement, de nouvelles initiatives. C'est ce bouillonnement auquel je faisais référence tout à l'heure, et en voilà un exemple très précis. Et quand ça vient d'un homme de cet âge-là, qui dit qu'il ne se préoccupe jamais du lendemain, qu'il faut s'inscrire dans le présent, on en a un exemple typique.
Écoutez, si vous voulez bien, je vous propose une courte pause, avec une musique brésilienne, bien entendu, qui fera sûrement très plaisir à nos auditeurs, avant de nous pencher plus particulièrement donc sur les activités de votre alliance à Belo Horizonte.
É noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, cainga, candeira, é uma tinta pereira, é madeira de vento, é o da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira, não queira, é o vento ventando, é o fim. Da ladeira, é a vida, é o vão, festa da cominheira, é a chuva chovendo, é conversa a ribeira, som das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do
Donc nous nous sommes laissés bercer par ce rythme brésilien, la samba, qu'on sent un petit peu dans la démarche, même dans la rue, on sent que les Brésiliens ont la samba dans le sens, ça c'est absolument visible. Donc nous passons maintenant aux choses plus sérieuses, nous quittons la samba et les rythmes brésiliens, pour parler de votre alliance française donc à Belo Horizonte. Elle existe depuis quand ?
C'est une alliance qui a 65 ans, c'est-à-dire qu'elle a presque le mi-temps de la création de l'Alliance française qui date de 1883. Et ici, donc, depuis 65 ans, il y a une alliance qui, comme toute structure et institution, a connu des périodes fastes et puis des périodes plus délicates, plus difficiles.
Vous-même, Patrick Le Coustumer, vous êtes ici depuis quand ?
Moi, je suis jeune directeur sur le continent sud-américain, puisque je suis ici depuis une année. Voilà, après avoir œuvré pendant plusieurs années sur le continent africain et notamment au Nord Cameroun.
Et donc ici, au Brésil, à Belo Horizonte, vous avez trouvé votre bureau dans cette petite maison qui est charmante, peinte en bleu, qu'on peut voir d'ailleurs sur notre photo. Donc, une petite structure avec combien de professeurs ? Comment ça fonctionne ?
Alors, une alliance française a plusieurs missions. Sa première mission, c'est de proposer effectivement des cours de français pour tous les publics. Une de ses deuxièmes missions, c'est d'ouvrir sur la culture, culture française et les cultures francophones. Et sa troisième mission, ce serait de donner à voir la diversité culturelle, c'est-à-dire de travailler aussi avec la culture de l'autre, la culture brésilienne, les cultures locales, les cultures sud-américaines et voire du monde entier.
Oui, ça c'est le cadre général de toutes les alliances françaises dans le monde, pas seulement au Brésil. Mais quelles sont vos impressions, disons les particularités que vous avez trouvées ici à Belo Horizonte ou dans la région de Minas Gerais ?
Alors ici, c'est une maison qui a une tradition quand même grande de proposer des cours de français, puisque nous avons beaucoup d'étudiants qui ont projet, par exemple, d'aller poursuivre leurs études en France, qu'on a toute une population qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un amour immodéré pour la France et qui désire mieux maîtriser la langue. Nous avons des gens qui le font par acte gratuit, parce qu'ils aiment. Ils aiment cette langue, ils aiment sa musicalité, puisqu'on vient d'écouter de la musique, et donc ils fréquentent cette alliance. Donc, quand je suis arrivé ici, on avait une alliance qui comptait un peu plus de 500 étudiants. Le nombre est croissant, c'est-à-dire il faut saluer le travail des directeurs successifs qui, lentement mais sûrement, feront progresser le nombre d'étudiants. En même temps, enseigner une langue sans permettre de découvrir la culture, ce serait aberrant. Nous ne sommes pas simplement pour maîtriser des véhicules de communication usuels, nous sommes là aussi pour faire comprendre une pensée, une manière d'être, une manière de vivre, de s'ouvrir à une culture, à d'autres cultures, au monde d'aujourd'hui. Parce que la culture contemporaine, à mon avis, doit prendre une place de plus en plus grande dans nos apprentissages.
Quelles sont en général vos manifestations sur le plan culturel, justement ?
Alors, tout à l'heure, je n'ai pas répondu à votre question de comment se composer, comment se structurer l'Alliance. Il y a un comité, on reviendra peut-être tout à l'heure. C'est avec ce comité que nous choisissons notre plan d'action, que nous déterminons notre plan d'action et que nous le finançons. Il y a un personnel, ici ce sont 7 personnes, très compétentes et très investies.
Un personnel local,
brésilien. Le personnel local, parmi les professeurs, qui sont 12, dominantes de professeurs brésiliens, mais on peut aussi avoir des professeurs français, c'est le cas en ce moment, puisqu'on a 2 professeurs, à la fois le plus ancien et le plus jeune de l'équipe enseignante.
Donc, même les professeurs portugais qui enseignent le français, ils ont un niveau certifié ou garanti par des examens, etc., parce que la prononciation entre le français et le portugais est tellement différente que... On a un peu de mal à imaginer comment un professeur brésilien, donc quelqu'un de langue portugaise, puisse bien enseigner les finesses de la prononciation française.
Oui, et puis de la même manière qu'ici, on va trouver des nuances dans l'apprentissage de la langue portugaise selon l'état ou la région dans laquelle on se situe, on pourrait dire la même chose par rapport à la langue française entre un habitant du sud de la France, du centre ou du nord. Mais nous sommes très attentifs justement à ce domaine de la phonétique. À la prochaine rentrée, nous allons avoir un laboratoire de phonétique autonome pour les étudiants qui vont leur permettre justement, grâce à un logiciel qui s'appelle Speedlingua et qui a été promu par notre délégation sur toutes les alliances du Brésil, de pouvoir améliorer encore cet apprentissage.
Donc une sorte de médiathèque avec des ordinateurs et des outils de pointe technologique pour parfaire justement le niveau de la prononciation.
Oui, tout à fait. Nous sommes très attentifs. Quand je dis « nous sommes », c'est parce que nous sommes 39 alliances au Brésil, 7 centres associés, et qu'il y a une politique générale sur tout le Brésil pour que nous puissions offrir les outils les plus performants. Et ce logiciel permet justement, en autonomie pour les étudiants, de s'enregistrer et d'être corrigé automatiquement dans son propre enregistrement. Donc c'est un outil extrêmement performant qui a été testé à l'Alliance française de Paris et qui donne des résultats tout à fait étonnants et très stimulants, notamment pour les étudiants. Et très vite, ils se concrétisent leur progrès dans cette notion.
C'est donc une attractivité supplémentaire,
oui,
outre
Exactement.
Le rayonnement en général.
Exactement.
Et donc au niveau alors culturel, quelles sont vos cibles pour organiser les manifestations? Toujours en coordination avec votre comité local?
Il ne faudrait pas que l'année de la France au Brésil soit un point final par rapport à la programmation culturelle. Il faut dire que c'est un point, au contraire, de dynamique et que nous allons chercher à poursuivre cette dynamique, à la fois dans la programmation et, ce que je disais tout à l'heure, dans la formation d'un public. Alors ça passe, je crois, par tous les usagers de l'Alliance. C'est-à-dire à la fois par le personnel, par les professeurs, par les étudiants qui viennent ici, qui après vont être nos ambassadeurs, qui vont être notre chambre d'écho par rapport aux autres publics, pour comprendre qu'il se passe toujours quelque chose, pour parodier une publicité, dans cette alliance, et de montrer que c'est une cellule d'ouverture, qu'il y a toujours de la présence, de l'écoute, de la disponibilité, de l'altérité. Donc eh bien, nous allons poursuivre en permettant justement tant à des artistes locaux qu'à des artistes venus de l'extérieur de venir présenter leur talent, de venir présenter leur travail. Moi, je serai extrêmement attentif à inscrire ces événements dans ce qu'il y a de plus pointu dans la création artistique contemporaine, mais avec toujours un souci de démarche pédagogique. C'est-à-dire permettre aux gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation artistique qui leur permette de comprendre la modernité, de pouvoir y accéder. C'est-à-dire de faire la preuve que pour mieux comprendre les cultures antérieures, il faut commencer peut-être par mieux appréhender la culture des sociétés dans lesquelles nous sommes.
J'imagine que vous organisez par exemple des ateliers de différentes sortes.
Voilà, alors vous mettez exactement le point sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut proposer des ateliers, il faut proposer des formations, il faut permettre à des structures de formation peut-être de se jumeler, de se mixer entre nos deux États, entre différents pays, pour que justement il y ait des initiatives qui s'inscrivent dans le temps et que cette jeunesse qui dans ce pays n'a pas forcément une éducation artistique à l'école ou l'éducation du sensible comme dans la majorité des pays aujourd'hui sur cette planète est un peu laissée à l'écart parce qu'il faut aller tout de suite sur une nécessité de professionnalisation et de rendement économique, et bien qu'on comprenne qu'on ne peut pas faire l'économie d'une éducation artistique dès le plus jeune âge et jusqu'à l'université pour que ce soit une école de formation permanente pendant toute la durée de sa vie.
Ce sont des ateliers de théâtre, par exemple, ou quelle sorte d'ateliers ?
On peut rêver effectivement sur des partenariats qui permettent effectivement d'avoir des ateliers de théâtre ouverts à des structures également de la ville. Ça, nous l'avons pratiqué par exemple quand nous avons invité les studios Kabako, où ça nous a permis d'avoir des gens inscrits dans des démarches de danse qui ont pu participer à ces ateliers. Ici, bien sûr, notre première cible, c'est les étudiants de l'Alliance, parce que c'est un plus qu'on leur propose, et c'est bien leur montrer que ce que je disais tout à l'heure, que derrière une langue, ou en même temps qu'une langue, et surtout en même temps qu'une langue, il y a une culture, et que donc ces formations, cette sensibilisation se fassent perpétuellement, continuellement.
Et quel est le profil, si on peut parler d'un profil général de vos étudiants? Ils viennent de toutes les couches sociales mélangées?
Non, il faut être sérieux, c'est un investissement économique, les coûts sont relativement élevés et s'adressent à une certaine couche de la population. Ça, on le voit bien. On va mieux le mesurer puisque nous venons de terminer une enquête qui a été soumise justement à tous nos étudiants et qui va nous permettre de mieux comprendre l'organigramme social de nos participants. Ce que nous faisons pour permettre à des personnes qui n'auraient pas les moyens, c'est que nous avons des offres économiques, nous avons des bourses que nous pouvons offrir et nous avons des permutas. C'est-à-dire que nous proposons par exemple à des gens qui sont en difficulté eh bien, un échange de services. Je prends un exemple, un étudiant par exemple en littérature qui n'a pas les moyens de s'offrir des cours à l'Alliance eh bien, pourrait par exemple se proposer d'assurer une permanence dans notre médiathèque. Et en contrepartie, nous pourrions prendre en charge partie ou totalité de sa formation à l'Alliance.
Ah oui, ça c'est très concret et extrêmement efficace, justement pour une pénétration dans les couches sociales défavorisées. J'ai rencontré une communauté chrétienne d'origine africaine. Il y a une très très belle cérémonie à la gloire de l'Immaculée Conception, puisque c'était le 8 décembre, c'était sa fête. Et la chef de cette petite communauté chrétienne, qu'on appelle la reine Isabelle, elle suit des cours de français. Elle était ancienne fonctionnaire. Et maintenant, elle est à la retraite depuis 2 ans. Et le gouvernement brésilien donne des cours de formation, même aux retraités. Et d'ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée de mettre ça en rapport avec l'Alliance française. Parce que c'était tout à fait étonnant de voir cette femme très belle, complètement immergée dans sa culture africaine, et qui essayait de parler français et de nous accueillir, nous les Français, dans sa communauté.
Il y a toujours cette tentative, ici, chez les Brésiliens, même si leur apprentissage de la langue est extrêmement modeste, de le faire valoir. Nous, Français, par exemple, on est beaucoup plus timorés. On sait qu'on a toujours eu des difficultés sur l'apprentissage des autres langues. De par la constitution de ce pays, avec l'arrivée des populations africaines, il y a une richesse incontestable qui va peut-être plus s'affirmer dans des États du Nord-Est que dans le Minas. Mais le Minas s'est constitué par ces populations. Quand le colonisateur est venu et a exploité les mines d'or, par exemple, eh bien, il faut dire que ceux qui travaillaient dans ces mines étaient des esclaves et des esclaves africains. Donc ce Brésil doit sa richesse à cette population africaine qu'on va retrouver justement dans... Il suffit de s'éloigner un petit peu de Belo Horizonte et d'aller dans certaines petites cités autour d'Ouro Preto ou de Diamantina, qui sont les villes historiques, et pour trouver justement des populations à forte dominante africaine.
Et qui continuent à vivre selon leurs traditions? Alors, ou qui sont très intégrés déjà dans une vie un peu plus urbaine?
Je crois que les traditions sont là extrêmement présentes. Elles ne sont pas visibles tout au long de l'année, mais elles apparaissent dès qu'il y a des fêtes. Donc fêtes religieuses ou encore plus particulièrement au moment du carnaval. Là, c'est évident.
Oui, vous venez d'évoquer Ouro Preto et Diamantes. Ce sont des villes baroques, des villes de colonisateurs portugais. Vous pouvez nous en faire un petit portrait pour nos auditeurs de Canal Académie qui pourraient nous écouter en Australie ou au Luxembourg ou en Autriche?
Je vais me faire un peu le chantre de cet État que je ne connaissais pas pour dire ce que j'en perçois pour le moment, mais je pressens que cet État est sûrement un des États les plus riches du Brésil pour ses attraits touristiques. Alors, à la fois par ses paysages, sa diversité, son environnement et ses initiatives dans le domaine de l'écologie, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Et il y a toutes ces villes, justement, coloniales, donc Ouro Preto, je vais sûrement en oublier, Mariana à côté, Congonhas, Tiradentes, Diamantina, Serra, ici tout près de Belo Horizonte, Sabará. où on a des bâtiments baroques et notamment des édifices religieux absolument prodigieux. Donc, c'est pas pour rien qu'on voit des compagnies aériennes qui ouvrent de plus en plus de lignes directes depuis leur capitale jusqu'à Belo Horizonte. Auparavant, pour se rendre en Europe, il fallait transiter par Brasilia, Rio, São Paulo pour se rendre à Lisbonne ou à Paris, par exemple. Aujourd'hui, vous avez des lignes directes entre les capitales européennes et Belo Horizonte. Et il y a un tourisme de plus en plus important qui va venir ici. Et avec des événements comme la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques, on va voir de plus en plus une population européenne qui va venir. Et nos alliances vont avoir un gros travail, je crois, à faire, puisque dans le domaine justement de l'économie touristique, pour en citer qu'un, je crois que nous allons avoir beaucoup de candidats à l'apprentissage de la langue française.
Alors, vous avez très très bien décrit vos activités, et puis on a parlé un peu du profil de vos étudiants, mais quelle est en général l'image de la France dans cette province de Minas Gerais? Est-ce qu'on a une image de la France traditionnelle avec le passé glorieux des rois de France et les châteaux? Peut-être plus au même titre dans ce mouvement de révolution qu'on sent un petit peu à travers l'Amérique latine en général, la révolution française. L'autre jour, j'ai rencontré un chauffeur de taxi qui m'a posé une question tout à fait étonnante. Il parlait à peine l'anglais, mais enfin suffisamment quand même pour me poser la question. Comment les Français peuvent cohabiter avec ce passé des rois de France, le château de Versailles, le Louvre, etc., et la Révolution française. Ça m'a un peu étonnée. Je vous laisse à vous, peut-être, si vous voulez bien, une ébauche de réponse ou carrément une réponse à cette question clé, je dois dire.
Je crois qu'on a, quand on se pose cette question, on a un retour avec beaucoup de clichés. Ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que dans le domaine de la création, de la culture, alors on nous renvoie bien sûr au modèle que vous avez cité, hein, des châteaux de la Loire, de la Révolution française, des grands écrivains du 19e siècle, du siècle des Lumières, etc. Et la modernité, je vais dire, au fur et à mesure qu'on avance dans les études universitaires faites par notre public, mais je dirais que les grands modèles récurrents, ça reste quand même aujourd'hui, on entend citer toujours Édith Piaf, Charles Aznavour, en peinture les impressionnistes, les cubistes, etc. Mais que la vraie culture contemporaine, elle est réservée quand même à des gens qui ont un certain niveau universitaire et de personnes qui sont en lien direct avec le plus pointu de la création d'aujourd'hui. Donc je pense que nous avons un rôle à jouer dans toutes nos représentations françaises à l'étranger, et ce que fait d'ailleurs très pertinemment notre agence culturelle qui est Culture France, pour faire connaître justement ces artistes-là. Et l'année de la France au Brésil a permis justement de réactualiser cette image-là. Et par tous les moyens, des nouveaux outils informatiques qu'on a aujourd'hui, des nouveaux médias, cette image va s'affirmer davantage. Je vois par exemple, pour citer un seul exemple, on a Sophie Kahl, qui est une de nos représentantes les plus emblématiques des arts plastiques contemporains, qui vient d'avoir plusieurs expositions, tant à São Paulo, Carrio, Salvador de Bahia. Et je crois qu'on va aller vers ce domaine. Et je vois, moi, dans l'approche que j'ai avec des étudiants de ce cours de conversation auquel je faisais allusion tout à l'heure, qu'il y a une adhésion immédiate à cela. Mais ça, moi, je l'avais déjà testé en France en travaillant avec de jeunes enfants. C'est que si on parle de la culture dans laquelle on est, et il y a une compréhension beaucoup plus aisée que si on cherche à faire comprendre, par exemple, le classicisme. Parce que là, il faut des clés, il faut un savoir. Alors que dans sa culture contemporaine, on a tout sous la main, si on veut, pour entrer dans ce domaine de la création fondamentale. Parce que je crois que c'est ça sur lequel il faut qu'on aille. C'est que pourquoi est-ce qu'on apprend une langue? Pourquoi est-ce qu'on cherche à aller visiter le pays de l'autre? C'est parce que derrière tout ça, ça sous-tend justement une dynamique intellectuelle et des actes de création. C'est-à-dire, ce qui fait l'humain, c'est sa capacité à créer, quel que soit le métier que l'on exerce.
Vous étiez en train de m'expliquer donc qu'il est plus facile aujourd'hui d'éveiller un désir d'apprendre la langue, et particulièrement la langue française, c'est ce qui nous préoccupe, par une immersion dans la culture contemporaine, quitte à ensuite approfondir les liens, les relations, et le savoir et l'apprentissage, justement en allant en arrière dans l'histoire pour connaître un peu les bases ou les sources de la culture française. Donc aller du contemporain, de la culture contemporaine qui est plus palpable aujourd'hui, notamment par les moyens technologiques à notre disposition, et ensuite donc arriver, si les motivations sont suffisamment concrètes et profondes, jusqu'à apprendre ou connaître notre glorieux passé. Quand je dis notre, je me sens quand même aussi un peu française, bien que d'origine autrichienne.
Je crois que c'est là que nous pouvons être le plus pertinent et le plus innovant. Parce qu'il y a suffisamment aujourd'hui de médiums, d'éléments de connaissance pour aller, on va dire, au fondement des cultures classiques. Non pas qu'il ne faille pas y revenir, qu'elles ne sont pas essentielles. Attention, je ne mets pas de hiérarchie dans tout cela. Mais parce que je crois que nous devons travailler au maximum aussi sur du vivant. Faire comprendre à la fois le champ de la création artistique est ouvert à tous, quelle que soit son origine, quel que soit son niveau d'éducation, que ça fait partie de la vie de tout individu, qu'on peut y entrer à tout moment, qu'on peut en sortir, qu'on peut y revenir, que c'est par cet apprentissage des actes de création que soi-même on va devenir créateur. Je vais prendre un exemple. Récemment, le Brésil a accueilli une personnalité que je trouve très intéressante de la création contemporaine qui s'appelle J.R. Il a décidé de rester dans un certain anonymat. Il s'appelle J.R. Photographe. C'est quelqu'un qui, par exemple, à Rio, a fait une intervention dans une favela en photographiant le regard des habitants de cette favela. Et ensuite, avec leur accord et leur participation, ces photos sont agrandies et collées sur les murs des favelas. Et quand vous circuliez entre l'aéroport de Rio et la ville de Rio, vous passiez devant cette favela qui n'était plus vue comme un ensemble anonyme dans lequel on n'ose pas s'immiscer, mais où tout d'un coup la dimension humaine et le regard de ces personnes ouvertes à vous, en train de vous regarder, vous inviter justement dans cette espèce de compréhension que nous sommes identiques. Il vient de faire une intervention du même type, mais sur les bords de Seine à Paris, là, c'était fin novembre, où ces regards de femmes prises à la fois au Brésil, mais dans d'autres pays des 5 continents, ont été apposés sur les quais de Seine. Et cette œuvre s'appelle « Women are Heroes ». Et si on va, par exemple, sur Internet, on va trouver un certain nombre d'éléments sur cette approche. Et bien, quand je travaille sur cet artiste avec des étudiants ici, il y a une immédiateté dans la compréhension qui fait que, voilà, là, il y a un partage commun, quel que soit le niveau de langue. Et en même temps, ça suscite encore un engouement supplémentaire. Donc, nous devons toujours être sur la pointe de la modernité pour susciter toujours du désir. Voilà. C'est-à-dire, je crois que nos vies dans cette dynamique-là, susciter du désir. Et les alliances, elles poétisent le monde, elles suscitent du désir, elles mettent des gens dans une dynamique de création qui va se manifester après sur un rayonnement personnel, un rayonnement collectif, mais avec un projet complètement utopique, c'est de faire un monde qui ne cesse de s'améliorer, de s'humaniser.
Pour être une magnifique parole de conclusion, mais j'avais une petite idée encore, c'est de parler très brièvement, si vous voulez, parce qu'on arrive vraiment au terme de notre émission. Une chose que j'ai beaucoup ressentie ici, c'est une exigence dans l'approche de quelque chose, dans l'approche d'une personne, dans l'approche d'un thème. Je l'ai constaté au cours de plusieurs conférences auxquelles j'ai eu le grand plaisir d'assister. Les questions sont rarement superficielles, mais toujours très pointues. Ça a été évoqué d'ailleurs par vous et aussi par le délégué général de Rio, Yann Lorvaux, une grande curiosité, une ferveur, une fièvre d'apprendre. Mais cette exigence est quand même aussi assez remarquable. Est-ce que vous l'avez sûrement remarqué aussi ?
Oui, moi, cette exigence, je la remarque ici, lorsque je me retrouve dans des jurys d'examen où je reste absolument estomaqué, subjugué par le niveau d'intelligence, le niveau de connaissance, le niveau de recherche des étudiants de notre alliance. On le voit bien, notamment dans les échanges universitaires qui se développent de plus en plus dans les accords de coopération entre les universités brésiliennes et les autres universités du monde, que les étudiants brésiliens figurent parmi une élite.
Donc vraiment, le Brésil est un pays en devenir. Nous, en France, on pourrait en prendre exemple, parce que parfois, on se sent un peu fatigué de l'avenir, alors qu'au Brésil, on sent vraiment une jeunesse pour devenir grand et fort, et en plus avec la joie au cœur et la générosité dans les cœurs.
Je crois qu'on est là pleinement dans notre rôle et notre mission, c'est-à-dire de favoriser justement cette connaissance mutuelle, d'enrichir cette diversité, de permettre que nos colorations s'infiltrent mutuellement pour que justement cette dynamique soit de plus en plus communicative et que nous grandissions ensemble, c'est-à-dire qu'on va peut-être plus penser en termes de pays, en termes de continents, mais effectivement en termes de planète. Nous sommes en plein moment là, de réflexion sur l'économie durable, sur les développements écologiques de notre planète. Eh bien, je crois que tout ça, ça en fait partie, c'est-à-dire la connaissance, la création, l'épanouissement humain, il s'inscrit aujourd'hui à l'échelle mondiale.
Justement, vous touchez l'écologie. Nous n'avons malheureusement pas le temps de développer ce thème parce que c'est extrêmement important, notamment au Brésil. Il y a le problème de la déforestation qu'il faut essayer de limiter, sinon d'éradiquer. Il y a le président Lula qui essaye de faire pas mal d'efforts, mais je crois savoir qu'il y a une femme qui était dans son parti qui est maintenant une fervente militante et qui trouve que Lula n'en fait pas assez et que le Brésil devrait devenir à la pointe du développement durable parce qu'il y a énormément de gâchis qu'on peut constater dans la vie quotidienne. Le plastique, pour l'instant, peu de conscience de la menace encore parce que c'est un pays évidemment en développement, mais c'est au cœur du devenir aussi de ce pays.
On pourrait citer même des problèmes encore plus graves. L'État du Minas en est conscient et innove en ce sens. C'est notamment toutes les perturbations de l'environnement par les mines. Et donc, je vais en citer qu'une, parce qu'elle est assez emblématique. C'est les accords qui se sont faits entre la mairie, les associations, les universités et une structure française qui est bien connue, France Liberté, parce que sa présidente en est Danielle Mitterrand, et qu'il y a des actions exemplaires qui sont faites sur la préservation de l'eau. Il y a tout un dispositif d'éducation au respect de l'eau qui se fait ici, à Belo Horizonte, dans l'État du Minas, avec tout plein de structures, pour mobiliser les populations et les institutions sur cette richesse, parce que c'est une région où on ne manque pas d'eau, mais où justement parce qu'on n'en manque pas d'eau, on n'est peut-être pas suffisamment attentif. Cette opération s'appelle les porteurs d'eau, et c'est une opération qui se répercute également dans d'autres pays du monde. En voilà une, sûrement parmi tant d'autres, parce qu'on sait que là, sur Copenhague, le Brésil, les États-Unis, comme la Chine, sont des pays qui, jusqu'à présent, avaient peut-être été d'une certaine timidité face à ces projets et qui, maintenant, en comprennent la nécessité première.
Écoutez, malheureusement, nous devons conclure notre entretien qui était pour moi excessivement intéressant et très, très vivant. Et vous nous avez bien fait comprendre votre position de l'Alliance française dans cette région ou province Minas Gerais et la ville de Belo Horizonte. Un grand, grand merci, Patrick Le Coustumer. On ne peut qu'inviter tous nos auditeurs à visiter le Brésil et votre région et sentir personnellement toutes ces merveilles qu'on nous offre ici. Merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie et si vous venez jusqu'à Belo Horizonte, sachez que l'Alliance française a les portes grandes ouvertes pour vous accueillir et personnellement, je m'engage à vous y réserver le meilleur accueil.
Merci beaucoup pour tous vos futurs visiteurs.